chronique mutante.
Un magazine queer, punk, anarchiste et féministe.
Tous les samedis de 18h à 19h sur Radio Panique 105.4. Bonsoir.
Bonsoir.
Et vous êtes sur Radio Panique, il est 18h et il fait très beau et vous écoutez Chronique Mutante. Et on petit comité aujourd'hui. On a juste Margot et moi.
Voilà. J'aurais bien voulu avoir pourtant l'horoscope.
Moi aussi je voulais l'horoscope, mais en fait non, j'ai reçu un message, j'ai rien. Voilà.
Oh non.
Je pense que ça fait un an qu'elle a rien. C'est triste. Parce que nous, on ne sait plus quoi faire et nos auditoristes non plus.
Ouais, puis les gens vont avoir marre des bouquins en plus.
Comment ?
Les gens vont en avoir marre des bouquins au bout d'un moment,
non,
c'est ce que je me dis.
Ils vont pas en avoir marre des bouquins. Mais sinon, vous pouvez aller lire votre propre horoscope. Moi, je l'ai lu ce matin d'ailleurs, celui du mois de juillet sur Autostradal. Ouais. Sur la saison des cancers. C'est assez intéressant. C'est le queeroscope sur le site autostradal.com. Et ben voilà, ben, moi j'ai préparé une petite revue de presse et de la musique. Et toi, tu vas nous parler de un, deux, trois bouquins.
J'ai pris deux livres.
Deux livres.
Enfin, il y en a un que j'ai là, physiquement, que j'aime beaucoup et dont j'avais envie de parler depuis un moment, qui s'appelle Autobiographie du Rouge de Anne Carson, qui m'a été conseillée par mon ami Dari, à qui je fais un bisou s'il écoute. Et vraiment, c'est magnifique. Ça fait vraiment longtemps que j'avais envie d'en parler. Après, comme il est écrit en vers, il y a pas mal de personnes qui se sentent un peu rebutées au début, alors qu'en fait c'est très agréable et c'est des vers libres. Et en fait c'est très moderne, donc c'est pas si compliqué.
Okay.
Et c'est une histoire d'amour entre une créature monstrueuse et un. Enfin, considérée comme monstrueuse et un Héraclès, un autre personnage. Bon, c'est des personnages mythologiques qui sont mis dans la vie de tous les jours, dans une banlieue sans histoire, quoi.
Ok.
Voilà. Et le second, c'est Un bref instant de splendeur de Océan Vuong. Dont vous avez déjà peut-être entendu parler, parce que quand même ça a eu, quand c'était sorti dans une grosse maison d'édition, ça avait eu, on en avait quand même pas mal entendu parler, mais j'avais envie d'en parler parce que c'est aussi une histoire d'amour entre deux jeunes hommes, dont un qui est, dont la famille immigrée du Vietnam aux États-Unis, et c'est une très belle lettre écrite à sa mère pour parler des traumas de la guerre et aussi de son homosexualité. C'est en tant que personne racisée aux États-Unis, c'est très beau.
Voilà. Ok. On commence en musique. On va écouter Nabia Iqbal, c'est un album qui vient tout juste de sortir, son deuxième album, je pense, et la chanson s'appelle This World Couldn't See Us.
We'll be right back.
Chronique mutante. Chronique mutante.
J'ai sorti un ancien jingle.
Oui, c'est ce que je me disais, je l'ai jamais entendu celui-là.
C'est les anciens, à un moment on pouvait plus trop les passer, puis je pense là c'est super ok qu'on les repasse. Donc ça fait un peu de variété, parce qu'ils étaient quand même super cool.
Oui.
On s'est dit qu'on commençait par une petite chronique bouquin, puis après on fera musique, revue de presse et une autre chronique bouquin. Comme ça vous savez tout d'avance le programme.
Voilà, je vais commencer par le livre de Océan Vuong. Et donc là, j'ai pas le livre avec moi, j'ai juste des petites notes et j'ai un extrait que j'ai pris sur internet parce que le livre il est à la foudre et j'avais vraiment la flemme d'aller le chercher. Voilà.
T'aurais pu me dire.
Mais j'ai complètement. Je faisais une sieste, voilà, pour tout vous dire. J'avais une belle trace d'oreiller en arrivant. Voilà. Et donc c'est un roman qui m'a vraiment beaucoup marqué quand il est sorti. Enfin, en tout cas, j'avais trouvé que c'était une rentrée littéraire en septembre un petit peu. Un peu nul. Et là, j'étais tombée sur ce roman. Je me disais, il y avait un vrai souffle, il y avait une vraie écriture aussi. Et ça s'appelle Un bref instant de splendeur. Et on peut vraiment dire que le livre, c'est un peu ça quand même. Quand on le lit, on le referme avec la sensation d'avoir eu accès à un bref instant de splendeur, justement. Et donc, juste pour dire deux mots sur l'auteur, j'ai vraiment pas trouvé grand chose sur internet. Aussi parce que je suis nulle en anglais et que j'avais la flemme de traduire tout ce qui avait marqué sur Wikipédia en anglais. Et donc voilà, il est né au Vietnam, à Ho Chi Minh, et c'est un poète et romancier essayiste américain, voilà. C'est un peu tout ce que j'ai, sachant que le livre a quand même, même si c'est un roman, a quand même des parties vraiment autobiographiques, c'est un peu ce que j'ai compris, en tout cas que ça parlait aussi de son expérience, voilà, de manière romancée. Et donc c'est un livre, une lettre, tout le roman est une lettre, écrite par un fils à sa mère, où il essaie de lui parler de sa vie, et notamment de comment lui, il a vécu son adolescence et son entrée en sexualité avec un jeune homme qu'il a rencontré dans son, enfin vraiment pas loin de son village. Et en même temps, il essaie de lui pardonner tout ce qu'elle lui a fait subir, parce que c'était une mère violente. Et en même temps, avec l'âge, il commence à comprendre pourquoi, en fait, parce qu'elle a été, elle est immigrée du Vietnam, en fait, elle est arrivée avec sa propre mère, donc ils vivent à trois, avec la grand-mère et la mère. Et c'est des personnes qui sont vraiment multitraumatisées, en fait, de la guerre, du déracinement, qui ont du mal à apprendre la langue, voilà. Et la mère, elle tient un salon de manucure et d'entretien des mains et des pieds, tout ça. Et donc, ce qui est assez... voilà, il raconte un peu ce que c'est ses vies, la vie de sa mère, en fait, dans ces endroits où on respire tout le temps, des produits chimiques, et on est tout le temps en contact avec des gens qui sont pas toujours hyper respectueux, très mal payés. Enfin, voilà, donc il raconte un peu tout ça, et c'est une très belle lettre d'amour à sa mère, et en même temps, il raconte l'enfance de sa mère. Et sa jeunesse, quoi.
Et du coup, dans la lettre à sa mère, il parle de la vie de sa mère ?
Oui, oui, oui. Okay. C'est juste une forme pour le roman où il s'adresse toujours à elle. Il lui dit « quand tu étais enfant ».
Ok, voilà. C'est écrit à la deuxième personne, du coup.
Oui, c'est ça. En gros, il parle de lui et d'elle, et il s'adresse à elle, en fait. Et il parle aussi de la grand-mère, et voilà. Et donc, on a un peu, ça retrace son histoire familiale. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a plein de schémas qui se mettent en place, qui sont propres aux familles d'immigrés, justement, avec la grand-mère qui ne parle pas du tout anglais, la mère qui parle un peu, l'enfant qui, lui, finalement, est américain. Voilà, il est là et il en a un peu marre de sa mère et qui, déjà, est vachement violente avec lui. Et puis, il a envie de faire partie de son école, comme n'importe quel autre enfant, mais il est ramené aussi à son histoire tout le temps, aussi parce que c'est une personne racisée qui subit le racisme aux États-Unis. Il en parle quand même beaucoup, c'est assez intéressant. Et en plus, il découvre, il commence à appréhender son homosexualité vers 14-15 ans. Et il fait la rencontre d'un jeune homme qui vit avec son père dans une caravane et qui est vraiment quelqu'un aussi qui est marginal pour des raisons différentes, plus des raisons de pauvreté, famille, addiction, voilà. Et c'est une rencontre un peu fulgurante entre les deux personnages et c'est vraiment très très beau. Enfin, voilà. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ça questionne beaucoup les masculinités aussi dans différents environnements. Parce que justement, lui, qui est une personne asiatique, qui va être considéré comme moins viril, et qui, en fait, il trouve ça, enfin, il trouve son compte et qui va faire la rencontre de ce jeune homme qui a beaucoup d'addictions, qui lui, au contraire, incarne un peu une sorte de virilité toxique, mais qui en même temps est homosexuel. Et donc c'est assez intéressant, ça déboulonne pas mal de choses. Et le rapport avec sa mère aussi, dont il parle souvent, et comment il est perçu, lui, par sa mère. Et voilà. J'ai juste un petit extrait, du coup. J'ai pas beaucoup d'autres choses à dire, à part de dire que c'est vraiment très très beau et que c'est très dur, et en même temps c'est plein de compassion et vraiment de c'est vraiment une manière de penser les plaies de différentes générations comme ça, et de se faire voilà, de se pardonner après longtemps, et puis d'essayer de comprendre aussi d'où viennent les traumas d'une famille. Et donc là j'ai un petit extrait qui je trouve assez parlant. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à suivre la voie de la créature blessée, mais j'étais attirée, comme si on me promettait une réponse à une question que je ne possédais pas encore. On dit que si on désire quelque chose assez fort, on finit par en faire un dieu. Mais si tout ce que j'ai jamais voulu, c'était ma vie, maman. Je repense à la beauté, à ces choses qu'on chasse parce qu'on a décidé qu'elles étaient belles. Si la vie d'un individu comparée à la naissance... Si la vie d'un individu comparée à l'histoire de notre planète est infiniment courte, un battement de cils comme on dit, alors être magnifique... Même du jour de votre naissance au jour de votre mort, c'est ne connaître qu'un bref instant de splendeur. Exactement comme en ce moment, alors que le soleil pointe, bat entre les ormes, et que je ne fais plus la différence entre lever et coucher de soleil. Le monde rougeoyant m'apparaît identique, et je perds toute notion d'est et d'ouest. Les couleurs ce matin ont la teinte élimée de ce qui est déjà sur le départ. Je pense à la fois où Trève et moi étions assis sur le toit de la remise, à regarder le soleil sombrer. Ce n'était pas tant son effet qui me surprenait, cette façon de changer en quelques instants compressés, la perfection qu'on a des choses, la perception qu'on a des choses, y compris de nous-mêmes. C'est le fait même qu'il me soit donné de le voir. Parce que le coucher de soleil, comme la survie, n'existe qu'à l'orée de sa propre disparition. Pour être magnifique, il faut d'abord être vu. Mais être vu permet que l'on vous chasse. Voilà. J'ai un peu du mal à lire sur mon ordi, en fait, là, c'est trop petit, voilà. Désolée pour les petites couacs.
On passe une chanson ?
Oui.
On va écouter Pongo avec Bruxos. Take it, 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 take it C'est l'heure de la revue de presse.
Anna, la revue de presse.
Queer, 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 queer.
Chronique mutante.
Et on part en Russie où les députés ont durci, oui c'est possible de encore durcir les lois en Russie, ce jeudi un projet de loi interdisant les transitions de genre, en supprimant notamment le droit des personnes trans à l'adoption d'enfants, en pleine multiplication des mesures conservatrices depuis l'offensive en Ukraine. Mi-juin, la chambre basse du Parlement russe, la Douma, avait approuvé en première lecture ce projet de loi interdisant les interventions médicales et les changements à l'état civil pour les transitions. Seule exception, les anomalies congénitales chez les enfants. Donc j'imagine que c'est les enfants intersexes. Je sais pas. J'imagine. Sur décision d'une commission médicale au niveau fédéral. Par ailleurs, les personnes ayant effectué une transition auront désormais l'interdiction d'adopter ou d'avoir la garde d'enfants en Russie, selon la nouvelle rédaction du texte. Une transition de genre sera également un motif pour rompre un mariage. Et le texte doit être étudié vendredi en troisième et dernière lecture, selon la Douma. Et toujours en Russie, le même jour, les services de sécurité ont affirmé avoir interpellé un militant trans accusé de haute trahison au profit de l'Ukraine. Dans une vidéo de l'arrestation tournée par le FSB, c'est la sécurité intérieure, et diffusée par les médias d'État russes, des hommes cagoulés et armés, en gilet pare-balles, étrillés, camouflés, sortent d'une camionnette et plaquent brutalement le suspect contre un mur dans la rue. Au secours, dit le suspect dans un gémissement, avant d'être menotté et conduit dans la camionnette. Selon le FSB, l'interpellé est un militant LGBT, trans, ayant été assigné femme à la naissance et qui travaille comme bénévole pour l'ONG renommée OVD Info, documentant les répressions politiques en Russie. Toujours selon le FSB, le suspect est aussi l'administrateur d'un projet ayant organisé des transferts d'argent vers des organisations en Ukraine dans le but de financer l'armée ukrainienne. Il est visé par une enquête pour haute trahison, donc c'est un crime passible de la prison à vie en Russie. En Indonésie, un événement LGBT qui devait se tenir dans la capitale la semaine prochaine a été annulé en raison de menaces émanant de divers groupes, ont déclaré les organisateurs dans un communiqué. Les organisateurs de l'ASEAN Queer Advocacy Week ont décidé de déplacer le rendez-vous en dehors de l'Indonésie après avoir reçu une série de menaces de sécurité émanant de divers groupes, a déclaré dans un communiqué publié mardi, je me répète, désolé. Cette décision a été prise pour garantir la sécurité des participants et de l'organisateur, précise le communiqué. La Queer Advocacy Week, semaine de sensibilisation aux droits des personnes queer de l'ASEAN, devait se tenir à Jakarta la semaine prochaine et rassembler des activistes de toute la région pour discuter des défis auxquels la communauté LGBT est confrontée. La nouvelle date et le lieu de l'événement n'ont pas été communiqués dans l'immédiat pour des raisons de sécurité. Au Danemark, je vous promets, enfin désolé, c'est pas gay. Enfin, ouais, voilà. À la fin, j'essaie toujours s'il y a un peu des bonnes nouvelles. Et ça, à la fin, on essaie de finir sur une note positive. Mais malheureusement, voilà. Au Danemark, les personnes trans ont près de 8 fois plus de risques de faire une tentative de suicide que le reste de la population, selon la première étude nationale sur le sujet publiée dans la revue scientifique Journal of the American Medical Association. Cette étude est la première au monde à présenter des statistiques nationales. Jusqu'à présent, seules des données partielles étaient disponibles, mais montraient déjà que suicide et tentatives de suicide étaient beaucoup plus fréquents chez les personnes trans. En Géorgie, un festival prévu samedi 8 juillet à Tbilissi, dans le cadre de la Semaine des Fiertés, a été annulé après que plusieurs milliers de manifestants d'extrême droite ont envahi les lieux, ont annoncé les organisateurs et les autorités de Géorgie. Les organisateurs de la Semaine des Fiertés de Tbilissi ont accusé le gouvernement de complicité avec les groupes anti-LGBTQ violents. Ils ont affirmé dans un communiqué que l'attaque avait été coordonnée au préalable et convenue avec le ministère de l'Intérieur. Mais le ministère de l'Intérieur a assuré que les manifestants d'extrême droite étaient parvenus à contourner les cordons policiers et à atteindre les lieux de l'événement. Nous avons réussi à évacuer les organisateurs du Festival des Fiertés de Tbilissi, a déclaré le vice-ministre de l'Intérieur, Alexandre Darakvelits. La présidente géorgienne, Salomé Zourabichvili, c'est très dur à dire pour moi, une pro-occidentale critique du gouvernement de Tbilissi, a déclaré que ce dernier devait faire en sorte que le Festival des Fiertés se déroule en sécurité. Voilà, je ne vais pas rappeler tous les derniers méfaits des fascistes en Géorgie, mais il y en avait déjà eu des très gros dont on avait parlé ici, enfin, notamment des attaques avec des cailloux et des pierres et des choses comme ça pendant des parades. Et on va finir en beauté en Colombie à Bogota, où 100 000 personnes ont participé à la marche des fiertés. Je vais juste citer la maire de la ville. Il y a 40 ans, pour la première marche des fiertés, il y avait 30 personnes. Aujourd'hui, nous sommes plus de 100 000. La plus grande marche de l'histoire, a tweeté la maire lesbienne de la ville. C'est pour ça que je la cite, parce qu'elle est lesbienne. Elle s'appelle Claudia López Hernández. Voilà. Ça sera tout pour l'instant.
Merci.
Et petite pause musicale. On peut faire une petite pause un peu plus longue. C'est un long morceau, mais j'ai l'impression qu'on a le temps.
Ouais, bon non, il n'y a pas de problème.
Bah, ouais. On va écouter un extrait du dernier album de Swans qui s'appelle Paradise is Mine.
Awake, awake,
J'adore, j'ai l'impression qu'on est revenu en 2015 avec ça.
Je suis fan, c'est génial.
C'est cool. On fait un petit bouquin encore d'Anne Carson.
C'est ça. Du coup, c'est vraiment un de mes livres préférés. Enfin, je dis ça beaucoup, donc je ferais peut-être que j'arrête. Je pense que j'en ai beaucoup trop dans ma liste. Bon, c'est un de mes nombreux livres préférés. Et Anne Carson, c'est pareil. J'ai pas eu des masses d'infos sur elle. C'est une poétesse et écrivaine canadienne qui est prof d'histoire à l'université à Montréal. Voilà. Et qui est plutôt spécialiste de la mythologie, notamment de la mythologie grecque. Ce qu'on retrouve avec ce texte-là. Voilà, moi j'ai été vraiment séduite par ce livre, l'espèce de décalage où on a des personnages mythologiques. Donc, juste pour faire un petit point, voilà, je vais juste lire. Pardon, je me suis complètement paumée là. Oui, c'est juste que le personnage, les personnages de ce livre-là sont inspirés de figures mythologiques. Donc, il y a Gérion, le personnage principal, qui dans la mythologie est un personnage tout rouge, un monstre avec des ailes, qui a un troupeau de moutons et qui a un chien rouge. Ils habitent ensemble sur une île rouge, voilà. Et voilà, donc on a ce personnage-là, qui est du coup présent dans les fragments lyriques du poète de grec Stésichore. Alors je sais pas, enfin, moi non, je connaissais
tu
pas
veux
du
dire
tout.
Pour de vrai.
Pour de vrai.
Comme c'est une historienne. Alors elle prend son travail d'historienne et elle écrit des livres avec.
Exactement, voilà, merci de faire le lien parce que j'avais un peu du mal moi-même en fait à en parler. Et donc il y a vraiment des personnages, l'histoire de base donc qu'elle reprend, c'est ça, c'est ce personnage rouge avec des ailes rouges, avec son troupeau de moutons et son petit chien rouge sur une île. Et c'est dans un fragment d'un poète grec, Stésichore, voilà, que moi je connaisse pas du tout, que je connais toujours pas, je l'ai pas lu. Ça m'a pas forcément, j'ai pas été vers ça forcément après la lecture du livre. Et dans l'histoire, il y a une aventure que je dévoile pas ici avec Héraclès, donc le héros mythique de la mythologie grecque. Et là, il y a un vrai décalage parce que le personnage est on commence l'histoire, c'est un petit garçon en fait. Avec des ailes rouges, sur une île rouge, mais tout est complètement moderne. C'est comme s'il habitait dans une banlieue d'une petite ville avec sa mère qui fume des cigarettes, son père qui est parti et qui revient de temps en temps, et son frère qui se comporte pas très bien avec lui quand il est petit. Et donc on a cette histoire comme ça, de début très banal, sauf que le gamin il a des ailes rouges, et puis voilà, mais c'est quasiment anecdotique dans l'histoire en tout cas. Et c'est vraiment un livre qui est raconté en vers, mais pas du tout difficile à lire. Enfin, moi, je trouve pas, en tout cas. Je trouve que c'est des très courts passages, donc on réussit à vraiment dans le rythme avec des sortes de petites anecdotes comme des photographies, en fait, de la vie du personnage.
C'est une Canadienne francophone? C'est écrit en français?
Non, c'est une traduction.
C'est une traduction.
Voilà.
Mais ça passe bien.
C'est très, très bien traduit. Enfin, vraiment, bravo, la traductrice. Je sais pas si c'est un nom féminin ou pas, mais bon, bref. C'est vraiment très, très beau. Et, moi, en tout cas, j'ai été transportée par l'écriture. J'avais un peu peur, justement, de ça, parce qu'on m'en avait parlé comme de quelque chose de magnifique en langue originale. Et en fait, vraiment, ça vaut la peine. Hein, mais chez L'Arche, donc c'est les écrits pour la parole des éditions de L'Arche, c'est très, très. Ils ont des très bons traducteurs, des très bonnes traductrices. Et donc, c'est vraiment beau. Et donc, on suit l'enfance et l'adolescence et le début de l'âge adulte de ce personnage qui est de fait marginal. Parce que, bon, voilà, c'est un petit monstre, en fait, comme ça. Il va à l'école et puis il a ses traumas qu'on va voir. Voilà, de type de différents abus qu'il a subis et qui arrive voilà, à l'adolescence un peu abîmée et qui va faire la rencontre avec Héraclès et la rencontre amoureuse. Et c'est vraiment un très beau texte sur... moi, je sais pas, ça m'a vraiment touchée sur le trauma, notamment, les traumas dans l'enfance. C'est très bien traité, c'est pas... Enfin, je veux dire, je vais pas faire un énorme trigger warning, il faut pas lire ce livre, il est trop violent, il y a des choses trop dures. Il y a des choses dures et violentes, mais c'est vraiment abordé d'une manière tellement juste et avec beaucoup de poésie aussi, mais sans être esthétisé non plus, du tout. J'ai trouvé que ça touchait vraiment juste, et en tout cas, moi, c'était un univers qui me parlait aussi. Je suis un peu fan de mythologie grecque, donc je pense que ça joue aussi. Mais là, il y a un vrai décalage, et c'est tout à fait lisible pour des personnes qui n'ont absolument jamais lu ou ne sont jamais intéressées à la mythologie, mais qui s'intéressent aux personnages marginaux, quoi. Vraiment, les personnes des interstices, les gens bizarres, enfin, vraiment, c'est là-dessus. Et voilà, sur la naissance d'un
c'est
amour.
C'est très queer, du coup.
Ah, c'est carrément queer, ouais. Parce qu'en plus, la relation principale, c'est une relation homosexuelle. C'est un personnage qui est homo et qui se questionne beaucoup sur le genre pendant tout le bouquin. Donc c'est quand même des questions qui traversent le livre, en tout cas sur la masculinité aussi, parce que c'est un personnage un peu peureux, qui vit dans son monde, qui ayant vécu des traumatismes et un petit peu... a des difficultés à interagir avec les autres, c'est un grand timide, enfin moi c'est un personnage qui m'a hyper fort touchée et qui va commencer à faire de la photographie d'ailleurs à un moment donné, donc en fait il va vivre un peu derrière l'objectif pour regarder le monde un peu différemment. Et voilà, c'est vraiment beau, je n'ai pas d'autre chose à dire à part peut-être de lire un petit extrait.
Yes.
Voilà, je trouve que tu as des questions sur le livre.
C'est clair.
Ok, cool. Ouais, c'est dur de savoir quel passage choisir.
Si tu veux, tu l'as fait tourner, je dis stop. Hein.
Non, c'est bon, j'ai trouvé. Donc, c'est l'instant de la rencontre. C'est vraiment des courts passages à chaque fois avec un titre. Ça s'appelle la échange. Et ça fait une page et demie. C'est comme ça tout le long du livre. C'est comme des photographies, en fait, vraiment écrites.
C'est comme un recueil de poésie, du coup.
Ça se présente comme ça, mais ça raconte vraiment une histoire. Hein. C'est chronologique. On est. Non, c'est vraiment. Et comme c'est des vers libres, ça se lit vraiment comme une. Oui, c'est comme une histoire. Ça reprend en fait le principe des textes anciens grecs, en fait, où il y avait des épopées qui étaient vraiment racontées en vers, avec à chaque fois des très courts passages comme ça, qu'on peut imaginer chanter aussi. Ou voilà. Donc c'est l'idée qui est reprise, mais c'est complètement moderne. Donc ce passage-là s'appelle Échange. Tant bien que mal, Gérion parvint à l'adolescence. Alors il rencontra Héraclès, et tous les royaumes de sa vie glissèrent de quelques crans vers le bas. Ils étaient deux anguilles supérieures au fond du bassin, et ils se reconnurent comme se reconnaissent les Italiques. Gérion entrait dans la gare routière un vendredi vers 3 heures du matin. Il voulait de la monnaie pour appeler chez lui. Héraclès descendait du bus en provenance du Nouveau-Mexique, et Gérion déboula à l'angle du quai, et ce fut là un de ces moments qui sont l'inverse de la cécité. Le monde se déversa en va-et-vient, entre leurs deux yeux, une ou deux fois. D'autres passagers qui voulaient sortir du bus du Nouveau-Mexique s'attroupaient derrière Héraclès, arrêtés sur la dernière marche, la valise dans une main, l'autre qui rentrait sa chemise dans son pantalon. « T'as la monnaie sur $1 ?» Gérion, entendit Gérion demander. « Non. » Héraclès fixait Gérion droit dans les yeux. « Mais je te donne une pièce en échange de rien. Pourquoi tu ferais ça ?»« Je crois en la gentillesse. » Quelques heures plus tard, ils étaient installés près de la voie ferrée, debout, côte à côte, près des feux de signalisation. Au-dessus d'eux, la nuit immense s'avançait et se dispersait en gouttes. « Tu as froid ?» dit Héraclès soudain. « Tes mains sont froides, tiens. » Il plaça les mains de Gérion sous sa chemise. Donc voilà, petit passage.
Là, t'as fini un passage.
Un passage, donc okay. C'est court comme ça à chaque fois. C'est vraiment.
C'est très original.
Ouais, c'est très original.
La forme est très originale.
Mais ça se lit très bien. Enfin, moi, je trouve en tout cas que c'est agréable dans la lecture, quoi. Et que moi, j'étais prise comme dans n'importe quel autre roman, finalement, au bout d'un moment. J'étais déstabilisée peut-être au tout début, quoi. Espace et temps. Confronté à un autre être humain, nos démarches individuelles gagnent en définition. Gérion se surprenait lui-même. Il voyait Héraclès presque tous les jours maintenant. L'instant de nature qui prenait forme entre eux aspirait des parois de sa vie jusqu'à la dernière goutte, et ne restait que des fantômes bruissants comme une vieille carte. Il n'avait rien à dire à personne. Il se sentait flou et brillant. Il brûlait en présence de sa mère. « Je te reconnais à peine », elle disait, en s'appuyant contre la porte de sa chambre. Il y avait eu une brusque averse pendant le dîner, et maintenant, le crépuscule faisait trembler les gouttes à la fenêtre. L'âcre quiétude des moments où, petit, il allait se coucher remplissait la pièce. L'amour ne me rend ni doux ni gentil, pensa Gérion, tandis que lui et sa mère se fixaient depuis les rives opposées de la lumière. Il remplit ses poches d'argent, de clés, de pellicules. Elle tapota une cigarette sur le dos de sa main. « Je t'ai mis des t-shirts propres dans le tiroir du haut cet après-midi, » elle dit. Sa voix cerna d'un trait toutes les années qu'il avait passées dans cette chambre. Gérion baissa les yeux. Il est propre celui-là, il dit. Ça se porte comme ça ? Le t-shirt était déchiré ici et là. God loves Lola en lettres rouges. Encore heureux qu'elle voit pas le dos. Il se dit en enfilant sa veste d'un haussement d'épaule, glissant l'appareil dans sa poche. « Tu rentres à quelle heure ?» elle dit. « Pas trop tard, » il répond. Un ardent désir d'être loin monta en lui. « Alors Gérion, qu'est-ce qui te plaît chez ce garçon, cet Héraclès ? Est-ce que tu peux me dire ?»« Est-ce que je peux te dire ?» pensa Gérion. Mille choses qu'il ne pouvait pas dire déferlèrent dans son esprit. « Héraclès est assez calé en art, on discute bien. » Les yeux braqués dans sa direction, mais regardant au-delà, elle rangea sa cigarette intacte dans la poche avant de sa chemise. Ça ressemble à quoi la distance ? C'est une question simple et directe. Ça dépend d'une, ça s'étend d'une intériorité sans espace jusqu'au rebord de ce qui peut être aimé. Ça dépend de la lumière. Je te l'allume, il dit en sortant une boîte d'allumettes de son jeans, en s'avançant vers elle. Non merci mon chéri. Elle se détournait. Je devrais vraiment arrêter.
Merci.
Avec plaisir.
Petite pause musicale et puis après j'ai traduit vite fait là pendant l'émission l'horoscope, on s'est dit bon, on peut le faire.
Oh yeah.
Du coup, on va le faire ça. Et une fois et pas coutume, on va passer une de mes chansons. Et comme j'ai jamais fait ça, c'est la première fois.
Ouh là
là. Il y a plein de gens qui font des musiques et qui passent à leur émission de radio. Enfin, j'ai plein de potes qui faisaient ça, mais moi j'ai jamais fait ça. Et on va passer une chanson qui s'appelle FSDF. Et c'est une nouvelle chanson et l'album il sort la semaine prochaine.
Yes.
Qui ne voulait pas s'en mêler, la laisser sur le palier. Fin de la...
satellite de l'amour, c'est le satellite de l'amour.
Hey, c'est l'heure de l'horoscope.
Une traduction de l'interprétation de Corinna du site Autostraddle.
Yes, mais en fait, Héloïse, elle a failli venir aujourd'hui, puis elle n'est pas venue. Et j'ai lu l'horoscope ce matin et je me dis, bon, allez, je l'ai mis dans Deeple et on va le faire.
Bah oui.
Oui, en fait, je l'ai trouvé super cool aussi, donc voilà. Puis je sais que la traduction est ok, parce que j'ai déjà passé en Deeple ce matin. J'aimerais envoyer un peu d'amour à l'énergie du cancer en ce moment, dans ce climat politique qui prive tant d'entre nous de soins et de protection. Dans le zodiaque, le cancer est l'endroit où nous établissons une protection féroce pour nos êtres chers, nos familles choisies. Chaque signe apporte un ensemble d'outils nécessaires, mais je me retrouve souvent à chercher des mots qui n'existent pas lorsque j'essaie de dire à mes clients ce que le cancer a de si puissant. Permettez-moi donc de vous raconter une histoire. Nous, les humains, sommes de mammifères sociaux. Nous dépendons les uns des autres pour notre survie et une grande partie de ce dont nous avons besoin pour survivre, ce sont des soins. Nous sommes tous ici parce que quelqu'un nous a nourris, nettoyés et habillés lorsque nous n'en étions pas capables. Lorsque nous sommes malades ou blessés, nous avons besoin de soins. Lorsque nous sommes âgés, nous avons besoin de soins. Lorsque nous nous considérons comme valides et autonomes, nous avons encore besoin de soins. Aux États-Unis, nous sommes nourris du mythe de l'individu autodidacte. On nous enseigne que nous pouvons et devons réussir sans avoir besoin de soins, tout en ignorant tout le travail de soins qui consiste à soutenir les personnes qui réussissent. Parce que notre culture ne valorise pas le travail de soins. Nous n'avons pas l'énergie du nous n'avons pas le langage qu'il faudrait pour dire à quel point l'énergie du cancer est puissante. Le Capricorne peut s'enorgueillir de sa vision à long terme, de son éthique du travail et de son intégrité. Nous avons le lion qui se vante de sa créativité et de son sens artistique. Quand nous en venons au cancer, nous disons « Vous ressentez vraiment vos sentiments ? En quoi est-ce une force et encore moins un super pouvoir ?» Voyons donc pourquoi ressentir est peut-être la chose la plus importante que nous puissions faire. Lorsque nous savons ce que nous ressentons, nous habitons la pleine dimension de notre humanité. Nous pouvons faire preuve d'empathie à l'égard des autres et tisser des liens au-delà des conflits ou des différences. Nous pouvons suivre le coup émotionnel et énergétique de ce que nous demandons aux autres de faire. Cela nous aide à passer d'un désir théorique de collectivité plus égalitaire à l'expérience vécue de la manière de les rendre habitables. L'énergie du cancer est ce qui aide les humains, à créer la sécurité ensemble et dans le meilleur des cas, elle s'efforce toujours d'étendre le cercle de soins et de protection au-delà de ses frontières actuelles. Pas seulement ma famille, mais mon quartier. Pas seulement mon quartier, mais ma ville, mon pays, toute l'humanité, tous les mammifères, toutes les créatures vivantes, l'écosystème, la planète, le système solaire et au-delà. Il y a une infinité de cercles que nous pouvons tracer dans l'énergie aimante et protectrice du cancer. En tant qu'homosexuel, nous savons comment faire. La tendresse, enfin, en fait, c'était en tant que queer, et ça a été traduit par en tant qu'homosexuel, donc je vais plutôt dire en tant que queer. Nous savons comment faire. La tendresse et la férocité, la reconnaissance de celles et ceux qui ont besoin d'être pris en charge, et de celles et ceux qui ont besoin d'un peu d'amour vache. À l'heure où les gouvernements suppriment les protections, nous devons redynamiser nos mouvements en faveur des soins et de la protection. Ce mois-ci nous rappelle comment procéder différemment cette fois-ci. Vénus rétrograde le 22. Vénus effectue ce voyage rétrograde tous les 18 mois et celui-ci durera jusqu'au 3 septembre. Vénus est ce qui nous aide à nous connecter les uns les autres. C'est là que nous faisons l'expérience de l'amour, du plaisir et que nous créons nos valeurs. Chaque fois qu'une planète rétrograde, c'est le moment de réévaluer, de revoir et de réviser la façon dont nous avons utilisé cette partie de nous-mêmes. Avec la rétrogradation de Vénus, nous entrons dans une période de ralentissement et de révision de tout ce qui est vénusien. Nos relations, nos pratiques créatives, nos finances, nos valeurs, notre relation au plaisir, à l'harmonie et à la beauté. Aujourd'hui, nous avons plus que jamais besoin les unes les autres et nous sommes nombreux à nous sentir isolés, aliénés et méfiants. Beaucoup d'entre nous voient leur santé mentale et émotionnelle se dégrader et nous avons parfois l'impression qu'il n'y a pas assez de soins pour tout le monde. Vous avez peut-être peur de dire à vos amis à quel point vous allez mal, sachant que c'est difficile pour beaucoup d'entre eux aussi. Il se peut que vous établissiez de nouvelles limites avec votre famille ou vos amis proches qui ne sont pas en mesure de vous traiter avec les soins que vous méritez. Il se peut que vous fassiez les deux et que vous craigniez, en demandant des soins, de dépasser les limites comme d'autres l'ont fait avec vous. Alors que nous continuons à faire face à des temps difficiles sur le plan collectif, il n'y a pas de moyen facile de réparer nos relations fracturées les uns avec les autres, avec la collectivité. Mais la saison du cancer peut nous orienter dans la bonne direction et cette rétrogradation de Vénus peut nous donner l'occasion de nous retirer, de nous ressourcer et de revoir notre façon d'aborder la connexion. Ensuite, comme d'habitude, il y a des petits mots pour tous les signes. Et ça serait très long si je faisais tous les signes. Donc en fait, on va faire juste les signes solaires et les ascendants de Margot et moi.
Trop bien.
Et pour les autres, vous pouvez retrouver l'horoscope sur autostraddle.com et dans la barre de recherche, vous tapez horoscope. Vous allez trouver tout de suite. Bélier. Se retirer et se ressourcer, ça c'est le pitch de chaque conseil. Votre relation à la joie, en particulier dans le cadre de la romance, du flirt ou du jeu créatif. Rétablissez des expériences de plaisir cohérentes. Renouez avec vos fournitures artistiques, vos outils de pâtisserie, votre roman à moitié terminé, votre sens du style. Sortez avec des amis, qu'ils soient platoniques ou romantiques. Collaborez. Rappelez-vous comment vous amuser avec d'autres personnes. Gémeaux, se retirer, se ressourcer. Votre réseau social, en particulier les personnes dont vous êtes le plus proche, géographiquement, émotionnellement. Éliminez les activités ou les relations qui vous épuisent, vous troublent ou vous éloignent de votre centre d'une manière dont il est difficile de se remettre. Retrouvez l'amour de vos étranges façons de voir le monde et des personnes qui vous aident à vous situer et à vous réjouir d'être ici ensemble. Et Margot et moi sommes ascendant vierge. Retraite et ressourcement. Je vais monter le son, il pleut tellement. Vierge, retraite et ressourcement, votre vie intérieure et votre connexion à ce qui vous remplit. Retraite est un bon mot pour cette rétrogradation en général, mais il est d'autant plus important pour vous qu'elle vous éloigne de la productivité, de l'efficacité et de la résolution de problèmes pour vous amener à passer de longs après-midi à regarder les nuages, à marcher là où votre chien veut aller aujourd'hui et à ménager la partie de vous qui est épuisée à force d'éteindre tous les feux, tout le temps. Rappelez-vous le plaisir de ne rien faire. C'est pas facile, hein. Moi, je dis, je fais déjà ça, de marcher où mon chien veut aller tout le temps.
Oui. Ok, voilà. Bon conseil en tout cas.
Oui, c'est un chouette horoscope. Est-ce qu'on a le temps ? Oui, on a le temps encore de passer une chanson. Qu'est-ce qu'on a encore ? On peut écouter soit Baos, donc du vieux rock, un peu de Darkos, ou soit Björk.
Mon Björk.
Alors Björk. On va écouter Atopos. Désolée, à chaque fois que je passe Björk, depuis que cet album est sorti, je ne passe que Atopos. Pourtant, il y a une autre excellente chanson, mais je l'aime tellement celle-ci. Voilà, à tout à l'heure. To only name the flaws
contente d'écouter Chronique Mutante.
Moi aussi, hein.
Ouais, c'était vraiment super.
Ouais. Et on vient juste dire au revoir. En fait, peut-être même on n'est plus sur la FM parce qu'il y avait une émission programmée après, mais on le dit juste pour vous qui écoutez le podcast. Au revoir.
Gros bisous.
Peut-être à la semaine prochaine, peut-être pas. Vous avez vu, on n'est plus très
régulier.
Moi, je
serai plus là.
Toi, tu seras pas là ?
Pendant 3 semaines, ouais.
Moi, je serai peut-être là. Il y a moyen. Mais s'il n'y a personne, c'est possible. Je ferai un DJ set vinyle alors. Je sais, j'ai prévu ça dans l'été à un moment. On fera ça. Je cherche le jingle de fin, voilà. Bisous, à la semaine prochaine.
Salut.
Chronique Mutante, une émission soutenue par la Fédération Schlagonie Bruxelles.